les informations à Dia Tipoku. Bonjour, du progrès dans le processus DRC. Au moins 100 miliciens viennent d'être désarmés au centre de transit de Aru ce matin. Ils sont issus du groupe FAPC. La cérémonie s'est déroulée en présence de la MONUC et de quelques officiers des FRDC. Début des examens d'état préliminaires pour les élèves autodidactes de la République démocratique du Congo. Certains coins du pays ne participent pas à ces épreuves. Dans ce journal, vous suivrez les explications du ministre de l'Enseignement primaire et secondaire, Damda Obel. Encore des incertitudes sur le bilan des dernières pluies torrentielles abattues sur Mbujimayi. Les ONG parlent de 2 morts alors que la presse locale parle de 6 morts. Les détails, c'est tout à l'heure dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Au moins 100 miliciens viennent d'être désarmés au centre de transit de Aru ce matin. Ils sont issus du groupe FAPC. La cérémonie s'est déroulée en présence de la MONUC et de quelques officiers des FRDC, Forces armées de la République démocratique du Congo. Cette opération s'inscrit dans le cadre du DRC, Désarmement et réinsertion communautaire de Aru, correspondance de Jolie Balivoto.
Ils sont plus de 400 miliciens, hommes, femmes et enfants, à rendre leurs armes ce dimanche matin entre les mains de la MONUC. Ces ex-combattants sont tous des éléments de la FAPC, Forces armées du peuple congolais. À l'issue de cette opération, un certificat de désarmement a été remis à chacun d'eux. Ce certificat contient toutes les informations possibles de façon à identifier chaque élément désarmé. Également, il constitue d'un laissez-passer à l'entrée du site de transit, dont l'ouverture est prévue normalement pour ce lundi 21 mars. Sur plus de 400 ex-combattants désarmés enregistrés, seuls 100 premiers pourront intégrer le site déjà de ce lundi. Selon la MONUC, d'autres groupes de 100 personnes pourront à leur tour intégrer le site de transit. Cette opération va se faire mardi, mercredi et jeudi prochain jusqu'à atteindre l'effectif de 400 personnes, car ce centre de transit a la capacité de 400 personnes. À noter enfin que lors de ce désarmement volontaire, une partie de ces désarmés ont exprimé leur souhait de retourner à la vie civile et une autre d'intégrer les troupes régulières de l'armée nationale congolaise. Depuis Aru, Jolim Balivoto, Radio Okapi.
Les populations des villages des groupements de Boutoumba dans la province du Katanga sont en fuite dans les forêts voisines du district de Lomami. Ceci depuis lundi et mardi dernier, jour où les affrontements entre les populations et les milices Maï-Maï ont commencé. Selon les ONG sur place, d'autres affrontements ont eu lieu le mercredi dernier. Cette fois-ci, c'est le village de Kisungui qui est concerné, mais cette version des faits est démentie par le commissaire de district du Haut-Lomami, Denis Maheho.
D'après Ocha Lubumbashi, les ONG de développement ont quitté la localité. Les populations ont fui vers la forêt. En plus des affrontements entre la population et les milices Maïma lundi et mardi dernier, d'autres affrontements ont eu lieu mercredi dans le village de Kisungi. Celui-ci est à 45 km de Katala, où avaient lieu les accrochages en février dernier. L'ONG Amis des personnes en détresse joint depuis Kamina et qui a dépêché une équipe affirme que les pêcheurs ont abandonné toute activité sur le lac Upemba. Monga Okuvidje de APD joint au téléphone à Kamina où il est arrivé ce matin.
Il y a eu la fermeture du lac, les policiers qui tracassaient la population et les Maïmaï qui voulaient qui cherchaient le chef afin de leur remettre les armes ou sortir le vélo et ils se sont affrontés encore. Il y a eu des morts. Il y a le cas de choléra qui est accéléré là-bas. Et là, il y a 7 morts. Ils n'ont pas d'eau potable, ils n'ont pas de vivres. Les gens sont en débandade en brousse.
Le commissaire de district du Haut-Lomami, que Radio Okapi a joint au téléphone, dit ne pas être au courant de la situation. Pour M. Kioni, les affrontements qu'il reconnaît sont ceux du mois de février dernier. M. Kioni dit aussi qu'aucune détérioration de la situation humanitaire n'est perceptible dans la partie sud de son district. Le commissaire de district a cependant promis de vérifier davantage l'information, car a-t-il conclu, il se pourrait qu'il soit erroné dans son interprétation de la situation, vu la distance entre les villages et l'absence de moyens de communication. Les agences humanitaires des Nations Unies, y compris la MONUC, vont de leur côté se rendre sur place mardi prochain pour tirer les choses au clair. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Vous l'avez noté, c'est un reportage signé Jean Gandou. À Kinshasa, début des examens préliminaires pour les élèves autodidactes de la RD Congo. Au total, 8 474 candidats prennent part à cette année aux différentes épreuves sur l'ensemble des 24 provinces de l'enseignement primaire et secondaire. Malgré les 99 centres choisis pour permettre l'organisation de ce contrôle national, certains coins du pays n'ont pu présenter ces examens pour cause l'absence de participants. Le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, Damda Obel, s'explique au micro de Thérèse Bassoubi.
J'ai constaté que les conditions d'organisation sont excellentes.
Les centres qui sont situés à l'extérieur du pays n'ont pas pu organiser les épreuves. Les candidats sont venus passer les examens au niveau des centres qui sont approximatifs. Les candidats provenant de Kigoma ont passé les épreuves à Lubumbashi. Les candidats qui sont venus de l'Angola, qui passent les épreuves au niveau du Bas-Congo, au niveau de la province Bandundu 3, dont le siège se trouve à Kingi, il n'y a pas eu de candidats. C'est qu'il y a un grand nombre de candidats provenant des provinces qui ont connu des troubles, notamment le Sud Kivu, le Nord Kivu, la province orientale et le Maniema. Ça explique très aisément ce que les gens ont eu à interrompre les études, étant donné qu'ils n'ont pas suivi le cursus normal, ils préfèrent venir se présenter comme autodidactes.
Une illustration du déroulement de ces épreuves à Bounia, le centre où se déroulent ces examens, n'a pas pu réunir tous les candidats pour passer cet examen préliminaire. Les détails avec Askin Zigbia Tahiro.
Le centre d'examen préliminaire de Bounia n'a pu accueillir que 75 candidats autodidactes sur 150 prévus. Une faible participation ont estimé les autorités scolaires en place. Selon l'inspecteur principal de l'EPSP Province Orientale 2, Doudou Nyabo, les candidats de Mombasa et de Guéti n'ont pas participé à ce concours pour des raisons inconnues. Ces deux territoires sont respectivement situés à plus ou moins 150 et 60 km de Bounia. Pour l'inspecteur principal de Bounia, la date de cet examen a été bien longtemps communiquée sur les antennes des radios locales. En plus, c'est depuis le mois d'octobre dernier que les candidats ont commencé leurs inscriptions, date à laquelle ils ont été aussi informés du début de l'examen préliminaire. Ce matin, au centre de Bounia, les autorités scolaires continuaient à recevoir certains candidats retardataires qui viennent pour la première fois s'inscrire et en même temps participer à l'épreuve. Ce qui justifie les difficultés qu'ont eues les autorités scolaires de réunir au centre de Bounia les futurs candidats autodidactes pour le prochain examen d'État. Il faut noter que trois centres ont été retenus dans la province orientale 2 pour l'organisation de ce concours national, notamment Arou, Mahagi et Bounia. De Bounia, Askin Zigbia Tahiro, Radio Okapi.
Et puis trois ressortissants congolais ont été arrêtés hier à Johannesburg. Ils avaient enlevé la fille du vice-ministre de Transport, Elias Mulungula. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole de la police sud-africaine en précisant que la fillette de 10 ans, Elisée Mulungula, a été libérée. Elle a été retrouvée dans un garage près d'un grand centre commercial de Johannesburg où les trois hommes, dont l'identité n'a pas encore été communiquée, ont été arrêtés. Elisée Mulungula avait été enlevée le jeudi dernier à la sortie de son école à Pretoria où elle vit avec sa mère. Les trois hommes avaient réclamé au vice-ministre de Transport une rançon de 100 000 dollars.
12h08 à Kinshasa, 1h de plus à Kisangani. La suite du journal avec vous, Adia Chipoku.
Direction province orientale, bientôt la prison d'Ossio, située à 17 km de Kisangani sur la route Opala, sera réhabilitée avec l'appui financier de la MONUC. Une enveloppe d'environ 15 000 dollars, voulais-je dire, est disponibilisée à cet effet. Annonce faite ce samedi par le chef de bureau de la MONUC Kisangani au terme d'une visite effectuée ce samedi dans cet établissement pénitentiaire en compagnie de l'autorité provinciale. Reportage Godlive Omondo.
15 000 dollars, tel est le montant de l'enveloppe que la MONUC offre pour la réhabilitation de la prison de Ossio. Ceci dans le cadre de son projet à impact rapide QIPS. Le chef de bureau de la MONUC Kisangani, Mahmoud Khan, l'a annoncé au gouverneur de la province ce samedi à l'issue d'une visite effectuée dans cette prison de haute sécurité de Kisangani. L'ONG Conception d'études et réalisation en bâtiments et travaux publics, SERBAT, est chargée de l'exécution de ces projets. Selon son coordonnateur Dominique Ilunga, l'essentiel consiste à replacer les portes des cellules, réparer partiellement la toiture, choler le mur et réhabiliter les installations sanitaires. La prison de Ossio se trouve présentement dans une précarité indescriptible. Sa réhabilitation pourrait certainement soulager les autorités ainsi que les détenus. La plupart d'entre ces derniers viennent actuellement de l'Ituri. Sur 46 détenus qui y sont actuellement hébergés, 30 viennent de Bounia. La prison de Ossio a une capacité de 1500 places. Kisangani, Godlive Omondo, Radio Okapi.
Quittons la province orientale pour l'Équateur, le centre de recherche en écologie et foresterie de Mabali, CREF, se trouve actuellement dans un état d'abandon total. Créé en 1949, le CREF était une station de l'Institut de recherche scientifique en Afrique centrale, le célèbre IRSAC Mabali. Aujourd'hui, ce centre qui faisait faisait autrefois la fierté de la province de l'Équateur et du pays, n'est plus que l'ombre de lui-même. Les précisions avec Jean-Michel Liboula.
Créé par les colonisateurs en 1949, le Centre de recherche en écologie et foresterie CREF de Mabali, situé à plus ou moins 150 km de Mbandaka, était une station de l'Institut de recherche scientifique en Afrique centrale, le célèbre URSAC Mabali. Ce centre avait pour mission d'étudier les différentes propriétés de la forêt équatoriale de la cuvette centrale. Malgré les nombreuses restructurations qu'il a subies, le Centre de recherche de Mabali n'a pas survécu au départ des chercheurs blancs. Aujourd'hui, le spectacle qu'offre le CREF est celui de la désolation. Nicolas Mwanza, directeur général du centre.
Les chercheurs n'est pas motivé. L'administration n'est pas à même d'encadrer la recherche. L'absence des frais de fonctionnement et de l'équipement logistique en est une preuve éloquente. Pas un camion, pas d'orbord, ni d'électricité ou de pharmacie, et j'en passe. Tout va au rabais.
À Bikoro ou à Djolou, les réserves naturelles du centre sont devenues propriété des paysans. Ils y pratiquent chasse et agriculture. Pour tenter de préserver ce qui reste encore de ces réserves naturelles, Mabali sollicite l'intervention de l'État. Nicolas Mwanza.
L'interdiction d'utilisation des filets de petites mailles, l'interdiction d'utilisation des poisons dans la récolte de poissons, la réglementation de la période des chasses et de la pêche.
Infrastructures pillées, absence d'eau et d'électricité, manque de frais de fonctionnement et de recherche, Mabali ressemble aujourd'hui à un ancien champ de bataille. Mbandaka, Jean-Michel Liboula, Mopolo Rado Kapi.
Quelques jours après la pluie torrentielle de mercredi dernier à Mbujimayi, l'heure est au bilan. Différentes sources concordent sur leur conclusion. Les eaux de pluie auraient emporté beaucoup de personnes faute de canalisation de la ville. Mais il y a encore des incertitudes en ce qui concerne le nombre de morts. Le point avec André Kambala.
Selon Jean Chimalomukala, le maire de ville de Mbujimayi, deux corps ont été enterrés vendredi. Il y aurait aussi beaucoup de disparus au niveau du pont de l'axe routier menant vers Meneditu. La pluie a causé également des éboulements sur divers endroits de la ville. La presse locale, quant à elle, parle de 6 morts. Deux femmes et une jeune fille marchant en file indienne ont été jetées dans un collecteur d'eau non loin du petit marché Misesa. Des adultes emportés par la vitesse des eaux dans la commune de Mouya sont allés échouer dans les ravins des environs. Un homme avoisinant la trentaine a subi le même sort du côté de l'aéroport de Bitemba. Autre type de catastrophe, près du rond-point de l'étoile à Dibindi, plusieurs branches d'arbres ont été arrachées et ont entraîné la coupure de fil de courant électrique. L'aéroport de Bitemba n'a pas été épargné. D'après l'ingénieur Marcel Tia, directeur provincial de l'office de voirie et drainage, la piste est menacée par plusieurs têtes de ravins, dont deux sont très accentuées. En attendant le fonds de l'État pour la poursuite des travaux de décantation d'eau, une équipe de travailleurs surveille l'avancée des ravins. Mbujimayi, André Kambala, Radio Kapi.
Un mot sur la ville de Bukavu. Les chauffeurs et les autres propriétaires des véhicules de cette ville boudent l'achat des nouvelles plaques d'immatriculation mises en vente par la Direction générale des impôts. Les contestateurs évoquent notamment la hausse des prix et la précarité socio-économique du moment à Bukavu, ville déclarée sinistrée. Un groupe des taximen rencontré plus tôt dans un parking à Bukavu avoue leur incapacité au micro de Jean Kassami. On les écoute.
Nous avons constaté que le prix de la plaque est exorbitant par rapport à nos moyens. Nous ne pourrons jamais réaliser 50 ou 100 dollars de recettes pour prétendre couvrir ces frais. Nous considérons que nous sommes toujours en guerre, nous sommes en train de lutter, mais rien ne marche. Nous aimerions bien payer ces plaques, mais que cela se fasse par tranche, qu'ils nous patientent jusqu'à la période post-électorale. Ça nous éviterait les paiements intempestifs des plaques d'immatriculation. Le RCD était venu avec ses plaques. Aujourd'hui, le gouvernement de transition nous impose les siens. C'est possible que le futur gouvernement issu des élections nous amène d'autres. Nous considérons tout ça comme une autre forme de pillage. Il nous faut encore 3 mois avant de nous exiger de nouvelles plaques, le temps que nous nous acquittions de la prime des enseignants à laquelle l'État ne semble pas réagir.
Actualité internationale à présent. Au Zimbabwe, un chef du mouvement pour un changement démocratique, MDC, l'opposition zimbabwéenne, a violemment pris à partie hier le parti du président Robert Mugabe. Le chargé des finances de ce parti, adressé à des centaines de sympathisants réunis dans l'une des zones les plus pauvres du Zimbabwe. En Afrique du Sud, quelques 20 000 personnes ont assisté hier soir à George, au sud-africain, à un concert organisé par l'ex-président sud-africain Nelson Mandela. Ce concert s'inscrit dans le cadre de la campagne 4664, son ancien numéro détenu pour lutter contre le sida. Enfin, 3 soldats israéliens ont été blessés dimanche en Cisjordanie, dont un grièvement par des Palestiniens qui ont ouvert le feu sur eux alors qu'ils escortaient des policiers israéliens recherchant des voitures volées, a annoncé une porte-parole de Tchahal. Selon la porte-parole de Tchahal, des Palestiniens ont tiré sur les soldats et les policiers israéliens dans le camp de réfugiés d'Al-Omri, près de Ramallah. En plus des 3 soldats, un policier a été légèrement blessé dans la fusillade. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Excellente condition d'écoute sur la fréquence de la paix.